Après le choc de la découverte de la profanation du cimetière de Lorette, j'ai souhaité savoir aujourd'hui si un phénomène islamophobe était réellement présent ici, en Nord-Pas-de-Calais, dans notre région, et même au-delà. Et s'il est présent, est-il différent de ce qui peut se passer ailleurs ? Première rencontre sur ce thème que je vous propose, c'est Ali Rani que j'ai rencontré, 36 ans, éducateur spécialisé. Ali Rani est également membre représentant du collectif des musulmans de France et nous explique ce qu'est ce collectif.
C'est un collectif qui réunit des associations, des individus au travers du territoire national, la belle France, cher pays dans mon enfance, comme dirait Trainé. Une série d'associations, d'individus qui se réunissent régulièrement et qui ont pour objectif, de pouvoir créer un réseau d'associations et d'individus au niveau national, de prendre la parole sur les questions liées aux musulmans et aux musulmanes de ce pays, trois, de se défaire des liens, entre guillemets, des pays d'origine qui sous-traitent avec les chancelleries la question de l'islam de France. Trois, avoir une voix citoyenne et engagée sur les questions de société qui nous concernent, mais sur tous les sujets, pas uniquement liés au culte.
Ton engagement dans le collectif, tu y viens comment ? Par quel biais ?
J'y viens par le biais du collectif national des jeunes musulmans de France. Mais comme on a vieilli et qu'on n'est pas éternellement jeune, parce que nous on est atteint d'un syndrome, c'est le jeunisme, hein. Quand vous êtes jeune, entre guillemets, issu de l'immigration maghrébine en particulier, vous êtes éternellement jeune. Il y a encore des gens qui nous appellent jeunes. On a beau être parent, père d'enfants, et à 40 ans, on sera encore jeune. On est jeune dans l'esprit. Bourdieu disait « la jeunesse n'est qu'un mot ». Mais bon, ça va, le jeunisme, c'est bon. Donc j'y viens à travers un collectif qui est le Collectif National des Jeunes Musulmans de France, à travers des actions de terrain engagées dans ma ville, là où je suis, à Roubaix, et après avec des connexions d'autres musulmans qui étaient dans la banlieue parisienne, dans la banlieue lyonnaise. C'est-à-dire les choses se sont faites un peu naturellement au début des années 90, quoi. Dans une dynamique de création à l'époque de jeunes musulmans de France, d'union des jeunes musulmans, une dynamique associative qui est née au début des années 90.
On se rencontre aujourd'hui, quelques jours après la profanation du carré musulman du cimetière national militaire de, avec un communiqué dont on va pouvoir parler, qui a été lancé par le collectif des musulmans de France afin de dénoncer et de dire plus jamais ça. Moi, j'étais... en étant sur place, heurté par la violence de l'acte, et je me suis dit, c'est pas possible, et en tant que régionaliste peut-être, ou alors ch'ti tout simplement, pas chez moi, j'ai envie, c'est pas ça là où je vis.
Heureusement, Dieu merci, non, c'est pas ça, je pense pas que le Nord-Pas-de-Calais c'est ça, on n'est pas des co-sanguinaires chômeurs cons, non, pour moi, le Nord-Pas-de-Calais c'est pas ça, et puis il n'y a aucun territoire qui ne peut être ça d'ailleurs, je pense pas qu'on y a, on pense, mais ce qui est choquant, c'est, moi, c'est la violence des propos, on n'a pas eu tout dans la presse, j'ai eu des retours en off, entre guillemets, qui vaut mieux taire des fois, vaut mieux, le silence des fois est meilleur que répéter ce qui a été écrit, mais c'est un message aux vivants, ça. La profanation de tombe, on va pas revenir là-dessus, c'est ignoble, inhumain, inqualifiable. S'attaquer, en plus, bon, symboliquement, s'attaquer à des soldats qui ont fait 14-18, qui sont venus pour libérer la France, bon gré, mal gré. Bon, c'était pas tous des soldats courageux, parce que les gens ne sont pas toujours venus de leur plein gré. Bon, ça, c'est une petite parenthèse de l'histoire. À ces ex-colonisés venus libérer la France, voilà, c'est ça. Et c'est une insulte, on va fêter le centenaire là, de la guerre 14-18 dans 100 ans, et insulter, et la deuxième fois de surplus en l'espace d'un an. Bon, là-dessus, la condamnation, elle est unanime. Il n'y a personne qui va vous dire, même les grands pourfendeurs de la liberté d'expression vous diront, c'est pas une forme de liberté d'expression. Mais la liberté d'expression s'arrête-t-elle où ? Quand on dessine le prophète de l'islam avec une bombe sur la tête, c'est sympathique, quoi. C'est un message d'amour et de fraternité. Mais bon, c'est la liberté d'expression. Là, c'est pas de la liberté d'expression, c'est des actes infâmes. Bon, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais c'est un message aux vivants. C'est pour les musulmans de France qui vivent paisiblement dans certains coins de France, dans la région, j'allais dire, on n'est pas maltraité ou mal vécu ou mal reçu. Bien au contraire, je pense qu'on est une région où encore on vit, en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais, où on vit, le vivre ensemble est une réalité. Je veux dire, on va pas faire de dessin. On n'est pas à Toulon, quoi. Voilà, pour dire les choses clairement. On n'est pas à Nice. Même si il y a le soleil et c'est la Côte d'Azur, ben moi je me sens mieux chez Mille dans le Schnorr, avec mes Vosges ch'tis, qu'avec les anciens de l'OAS qui regrettent l'Algérie française à Nice ou à Toulon. Voilà, ça c'est peut-être un stigmate aussi sur Toulon ou sur Nice, mais ayant voyagé un peu, je me sens mieux dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais c'est aussi un message pour dire, ben vous n'êtes pas chez vous. Mais ils comprennent pas, comme dit Zebda dans la chanson, là on s'en fout, là où on va, on est chez nous. Et là on est chez nous, et on est plus que chez nous parce que il y a des soldats musulmans qui se sont battus pour libérer la France, mais nos parents sont enterrés ici, et nous on sera enterrés ici, et notre vie elle est ici, et que vous le vouliez ou non, bah on est là. Alors, s'en prendre à la garde des Sceaux, Martine Aubry disait c'est une double insulte à la République. Ouais, c'est une double insulte pour les soldats, c'est une insulte à la garde des Sceaux. On fait référence à son origine ou à sa supposée appartenance à l'islam ou aux musulmans ou à l'islam. Ouais, mais c'est aussi, je pense, un travail de longue haleine parce que tu disais tout à l'heure, on parlait du 11 septembre, il y a une véritable libération de la parole islamophobe. Et là-dessus, on propose qu'il y ait un projet de loi qui vienne s'inscrire dans la loi contre le racisme et l'antisémitisme. Je veux dire, il y a deux poids, deux mesures. Faut pas nous dire que Redeker, quand il signe sa tribune infâme, ignoble dans le Figaro, qu'on puisse dire oui, c'est la liberté d'expression. Et puis quand il y a un préfet qui s'exprime sur la situation, un sous-préfet, le sous-préfet de Sainte qui s'exprime sur la situation en Palestine et en particulier à Gaza, il soit relevé de ses fonctions parce qu'il faut pas s'attaquer à Israël et surtout pas critiquer l'État d'Israël. Pascal Boniface qui fait une note de service au Parti socialiste en disant qu'il faut prendre en considération l'électorat entre guillemets sur l'immigration et peut-être pas trop se pencher sur ce qui se passe en Israël et le vote juif en France n'est pas si important que ça. Quand on voit la cabale, il n'y a pas d'autre mot, en direction de Pascal Boniface, qui est pour moi une sommité intellectuelle, qui était un membre éminent du Parti socialiste. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de perdre un éminent membre du Parti socialiste. Et la note était une note interne, en direction de François Hollande et Henri Nallet, ancien ministre de la Justice. Elle est sortie, bien entendu, et ils lui sont tombés dessus. Donc il faut arrêter. Je dis pas qu'il faut qu'on soit traité mieux que les autres, ni mieux ni moins. Mais en tout cas, la liberté d'expression, elle a un sens. Elle a peut-être des limites pour certains. Pour d'autres, il n'y a pas de limite. Mais quand on a des intellectuels, allez, on va citer des noms, à la Finkielkraut, ou quand on a des hommes de presse comme M. Imbert dans Le Point qui dit on peut être un peu islamophobe en France, ou quand Alain Finkielkraut ou Bernard-Henri Lévy prennent la défense d'Oriana Fallaci, Oriana Fallaci qui dit les musulmans, c'est comme les rats, ils se multiplient à une vitesse. Et que ça passe, et que c'est pas grave. Oh, On peut insulter facilement les Arabes, les musulmans. C'est moins grave que d'insulter les juifs ou les catholiques. C'est grave. Tout est grave d'insulter qui que ce soit. La dignité humaine, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de religion. Donc, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Une loi, ça suffira pas. Et le vrai travail du vivre ensemble, il se fait au quotidien. Avec nos amis, avec nos voisins, avec les gens avec lesquels on travaille, avec les gens avec lesquels on partage des valeurs, avec les gens avec lesquels on partage des projets, des fois. Et ça prend, je veux dire, on va pas dire, la France n'est pas un pays raciste. Il n'y a pas de pays. On vit pas sous l'apartheid, on n'est pas non plus en Afrique du Sud en 1970. Il y a des comportements, des fois, qui sont des comportements racistes, mais globalement, il y a eu une libération de la parole, une libération de l'insanité, des infamités qui peuvent être dites ici et là, qui facilite peut-être le truc. Et après, on a une frange de la droite, de l'extrême droite, qui va de De Villiers au petit nain de Maigret, qui existe. On a un fond antisémite, islamophobe, raciste. Homophobe, violent, mais ouais, mais ça a donné ces petits nasillons qui ont été tagués des tombes. Bah, là, c'est toute une société qui est malade, je veux dire, et c'est pas nous seuls, petits citoyens de du Nord-Pas-de-Calais, qui pouvons répondre à cette question.
Ce qu'on a eu là, c'est quoi? C'est le paroxysme? C'est un fait divers? Ou alors, c'est quelque chose qui. Justement, on parlait de liberté d'expression. C'est quoi? C'est le fruit d'une banalisation, d'une islamophobie, simplement. C'est comme ça que vous l'analysez, vous, au sein du collectif des musulmans de France?
En partie, je pense que c'est aussi tout le travail de matraquage médiatique, on parlait tout à l'heure de la télévision qui donne des visions, comme disait l'autre, y a de ça. Il y a de ça. Quand vous allez un peu sur le net et vous surfez, mais il y a des sites, mais bon, je ne vais pas leur faire de la pub, mais il y a des sites d'extrême droite et des sites islamophobes qui ont pignon sur rue. Et je pense que les abrutis notoires qui ont commis ces actes ignobles sont branchés sur ces sites-là. Je veux dire, j'ai pas eu le réflexe d'aller voir ce qui se disait sur les sites islamophobes de l'extrême droite et de la droite de l'extrême à ce sujet, mais ils doivent crier victoire. Je veux dire, ça existe. Il y a ce substrat-là qui existe. Mais ce qui est désolant, c'est que ça se répète. Et à croire que c'était une forme d'anniversaire, là. On était le 18 avril, c'est dans quelques jours. Il y a un an, jour pour jour, à croire que dans un an, alors les gens, il faut surveiller Notre-Dame de Lorette. On ne va pas mettre un hélicoptère qui tourne, on ne va pas mettre des caméras non plus dans les cimetières. Enfin, arrêtez, on n'est pas, dans ce délire. Mais il y a un vrai travail. Moi, ce que, en lisant tout à l'heure sur les dépêches AFP sur l'arrestation, supposée ou pas, de quatre présumés coupables de cette arrestation, il y a un truc qui me traverse la tête. Et franchement, j'ai envie de faire la démarche. Bah, je ne sais pas quel titre, il n'y a quel nom, mais je voudrais bien rencontrer ces mecs. Je voudrais bien m'asseoir et pouvoir échanger calmement autour d'une table et de voir qu'est-ce qui vous motive ou peut-être qu'ils ont peut-être jamais vu un musulman de leur vie, j'en sais rien. Moi. C'est peut-être toutes ces questions-là qui me taraudent. Mais pourquoi ? Parce que quand même, aller réveiller des morts, entre guillemets. Il ne faut vraiment pas avoir de cerveau ou avoir de bras. Mais au-delà d'idiotie, mais qu'est-ce qui vous a motivé et c'est quoi votre problème ? Concrètement, il est où le problème ? Qu'est-ce qui vous taraude qu'il y ait des musulmans ou qu'il y ait une représentation de l'islam ? Qu'est-ce qui vous taraude que Rachida Dattoui soit garde des Sceaux ? Je ne sais pas, moi, le cochon à l'aile, il y a eu de la réflexion quand même. Là. Ils ont dû réfléchir longuement avant d'aller mettre une tête de cochon et d'écrire à l'aile. Voilà, les raisons profondes de ces actes insensés. Je voudrais bien comprendre.
Enfin, il y a également quelque chose... moi, j'ai envie de dire pourquoi. Par exemple, on disait, ils ne nous rencontrent pas ou quoi que ce soit. Moi, le premier, je ne suis jamais rentré, par exemple, dans une mosquée. Est-ce que je pourrais rentrer, moi, dans une mosquée ? Pourquoi c'est compliqué culturellement. On rentre facilement dans une église en disant ça appartient à notre patrimoine, c'est un lieu, ça se respecte, ça se visite. Une mosquée, ça peut également se visiter.
Ben ouais, ça se visite. Moi, je fais tous les ans les journées portes ouvertes. C'est l'occasion. Il y a beaucoup de gens qui nous disent on n'ose pas. Mais je dis et pourquoi vous n'osez pas ? Ben, on ne sait pas trop. Ils ne savent pas trop expliquer. Nous, tous les ans, ici à Roubaix, on a une journée porte ouverte dans le cadre des journées du patrimoine. Donc c'est une idée, il faut peut-être dire. Alors, il y a peut-être des lieux de culte qui n'osent pas ouvrir leurs portes parce qu'ils vivent et ils prient dans des conditions pas très républicaines. Il y a de ça aussi. Les gens, ils ont un peu honte et puis c'est pas très présentable, entre guillemets. Mais nous, à Roubaix, on n'a plus ce problème, Dieu merci, depuis quelques années. On fait une journée porte ouverte à l'occasion de la journée du patrimoine. On a un monde considérable. Alors, peut-être envoyer la question, pourquoi les gens hésitent tant ? Mais moi, quand j'ai envie de visiter une église ou une synagogue ou un temple protestant ou un temple bouddhiste, je frappe à la porte. Alors, on pose la question très simplement, est-ce qu'on peut visiter ? Est-ce qu'il y a des moments où on ne peut pas visiter ? Si vous êtes en prière, on ne va pas venir vous déranger. Puis il faut franchir le pas. Alors, il y a cette... c'est pas une appréhension, peut-être la peur de l'inconnu. On ne sait pas forcément ce qui nous attend derrière la porte. Alors, vous pouvez être très, très bien reçu comme être mal reçu. Ça dépend sur qui vous tombez, tout simplement. Mais je pense qu'il faut franchir le pas. Et l'idée d'avoir des journées portes ouvertes ou d'avoir des journées comme celle des journées du patrimoine où les mosquées ouvrent leurs portes, comme les églises, d'ailleurs, c'est quelque chose à développer. C'est un lieu de culte parmi tant d'autres.
Vers une banalisation de l'islamophobie, on en discute aujourd'hui avec Ali Rani, membre représentant du collectif des musulmans de France.
Vous évoquiez tout à l'heure comme point pour le collectif le fait de se désengager plus ou moins de l'influence des pays d'origine. Ça existe ça maintenant ? c'est très proche du discours qu'avait eu, moi je l'interprète comme ça, ou je me trompe, sur le fond, Nicolas Sarkozy, en disant « Autant former nos imams chez nous, donner les moyens pour que le culte puisse vivre dignement, afin d'éviter de tomber sous le joug de telle ou telle puissance et de telle et telle extrême. »
Ouais, mais moi, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, le petit Nicolas, il y a un monde. Lui, quand il y avait besoin d'avis religieux, il est parti chercher son avis religieux au Caire, chez le grand moufti d'Égypte, chez Cheikh Tantawi, sur la question du voile. On n'avait pas demandé l'avis du Cheikh Tantawi, nous, en Égypte. Entre nous, avoir un discours où il faut former nos imams et puis aller en Égypte, aller demander l'avis du grand moufti d'Égypte sur la question, à l'époque où on légiférait sur le voile, il fallait peut-être qui viennent questionner les jeunes femmes ou les jeunes filles qui voulaient être scolarisées à l'école avec leur voile. Il y a un truc à l'envers. Se défaire des chancelleries des pays d'origine, que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Turquie ou d'autres pays, je pense que c'est plus que nécessaire. C'est une nouvelle forme de libération. Parce qu'on est encore dans une véritable, et là je pèse mes mots, on est dans une véritable gestion coloniale de l'islam en France. Ouais, on est... comme à l'époque du bureau des affaires coloniales, bureau des affaires des cultes au ministère de l'Intérieur. Quand on ne discute pas avec les musulmans de France, les citoyens de confession musulmane, les citoyens français de confession musulmane, on ne discute pas avec eux. On discute avec le consul, on discute avec l'ambassadeur, on discute avec le représentant du culte de tel ou tel pays. L'Algérie envoie ses imams qui ne peuvent pas aligner trois mots de français, le Maroc idem, la Turquie pareil. Bon, il y a un vrai problème de langue, il y a un problème de compréhension. Alors, ouais, certes, il faut que les musulmans apprennent l'arabe, très certainement pour pouvoir lire leur livre saint, ça c'est fondamental. Mais qu'il y a des instituts en France qui forment des imams, et ça existe, mais qui ne sont pas reconnus parce qu'ils ne sont pas sous l'égide ou le contrôle de l'État. Et si vous n'êtes pas un bon béni oui-oui, qui soit la botte du ou des politiques, ben vous ne rentrez pas dans le cadre. Je vais prendre l'exemple le plus flagrant. Pour moi, le CFCM est toute la preuve de son incompétence. On a élu le président du CFCM avant même qu'il y ait des élections. C'est très démocratique. C'est très démocratique. Nommer un président avant qu'il y ait des élections. Parce que c'est pyramidal. Il y a des élections du CRCM au niveau régional. Les CRCM des régions se réunissent, constituent un conseil d'administration au niveau national et élisent, entre guillemets, un représentant du culte musulman en France. Là, non. Non. Nicolas a choisi le recteur de la mosquée d'Ali Boubaker, qui est un notable issu des grandes familles bourgeoises algériennes, médecin de formation, ça se toujours bien. Hein. Puis après, on descend à la pyramide. Non, excusez-moi, moi, je n'ai pas cette culture démocratique de la décision du vizir qui donne des ordres. Et puis, en termes de production, on a un conseil régional du culte musulman dans la région Nord-Pas-de-Calais. Le bilan, double zéro. Qu'est-ce qu'il a produit, qu'est-ce qu'il a réalisé sur la question des cimetières musulmans, sur la question de la formation des imams, sur la question des aumôniers dans les hôpitaux, dans les prisons, sur la question de la viande halal et de la traçabilité de la viande. Rien sur ce dossier-là. On a eu affaire, je vais être méchant un petit peu avec mes frères, mais à des incompétents notoires, à des gens qui n'ont aucune compétence et qui n'ont aucune volonté d'agir au concret. On a un président du CRCM, je ne vais pas être méchant avec lui, ce n'est pas aligné de phrases en français. Bah, c'est bon, ça va. On a une génération de musulmans qui maîtrisent le français, qui maîtrisent les lois, qui maîtrisent la sociologie de ce pays.
C'est peut-être parce qu'ils maîtrisent de trop, justement.
Ben voilà. Mais le pouvoir préfère traiter avec ces ex-colonisés, non décolonisés de la cervelle, entre guillemets, je suis brut de décoffrage, mais on préfère discuter avec « Oui, monsieur le maire, hein, oui, monsieur le ministre, pas de problème. Oui, oui, on va vous ramener les gâteaux et le miel. » Non, c'est fini, ça.
Est-ce qu'on peut occidentaliser une religion ?
L'islam est une religion d'Occident. Je veux dire, l'islam est arrivé via les Turcs au XIIIe siècle dans les ex-pays du Balkan, que ce soit la Roumanie, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine. L'islam n'est pas arrivé en 1962 dans les cales de l'indépendance algérienne. La France a été une grande puissance musulmane pendant plus de 130 ans. Les grands oulamas d'Algérie avaient eu l'intelligence de comprendre et de lire le texte de la loi 1905 dans toute sa splendeur, en demandant l'application de la loi 1905 dans les territoires coloniser de l'Algérie, parce qu'ils savaient qu'à travers cette forme d'application de la loi, c'était aussi une forme de liberté qu'ils allaient acquérir. Et puis l'Espagne musulmane, et puis la transmission, entre guillemets, de l'Espagne musulmane à l'Occident. Donc, occidentaliser, je sais pas, ouais, occidentaliser. Moi, je suis un occidental musulman. Ouais, je suis né ici, j'ai un cerveau qui a été formaté à l'école de la République. Je suis un musulman d'Occident. Ouais, je suis un Européen musulman, un musulman européen. Vous mettez dans le sens que vous, ça vous chante. Mais ça, c'est une nouvelle... Et on est... Ouais, il me disait, ouais, mais vous êtes en avance et vous avez raison trop tôt. Je m'énerve quand on me dit, on est en avance, on a raison trop tôt. Ouais, on a une certaine culture, on a une certaine approche de la vie publique, de la vie démocratique, on a des valeurs spirituelles, religieuses, des valeurs culturelles, des codes, mais on est avant tout des citoyens lambda comme tout le monde, avec peut-être une spécificité pour certains d'entre nous qui sont marqués au fer rouge à leur appartenance ou leur filiation d'origine. Je veux dire, Français issus de l'immigration, jusque quand ? On est à la quatrième génération, bordel. Excusez-moi l'expression. On est à la quatrième génération et on est encore issus de quelque chose. Non mais ça va. C'est bon, quoi. Mes enfants, ils vont aussi dire qu'ils sont issus d'immigration. On est à la quatrième génération, mais un truc de fou. Benzema, il joue au football, il marque des buts. Tiens, Français, issus d'immigration. Bon, on a trouvé un autre mot maintenant, c'est de la diversité. Bon, on a trouvé autre chose. Non, mais c'est bon, je veux dire. Et là aussi, en termes d'acceptation, alors, tant qu'on joue au football et qu'on fait rire la galerie, qu'on ait des idées à nous debout, ça va. Alors là, sur le champ médiatique... culturel, showbiz, ça va, ça passe, le rap, les belles filles qui dansent, tout ça, ça c'est bon, ça c'est, y a pas de problème, très bien. Mais arriver à un autre stade, c'est un peu plus compliqué, en particulier, on vient de sortir d'une période où on est en campagne électorale. Est-ce que vous avez vu un maire issu de... Il y en a cash, il n'y en a pas. Si, Rachida Dati, dans le 5e arrondissement, s'il vous plaît. Ben voilà, en termes d'élus, il a fallu batailler dans des partis dits de gauche, pour qu'il y ait des représentations, entre guillemets. Et alors, si c'est pas Débini, oui, là aussi dans les partis politiques, hein, on va discuter avec le consul du Maroc et le consul de l'Algérie pour avoir un représentant de la communauté. Mais il ne représente pas la communauté, ce garçon. Il représente la communauté des citoyens, il ne représente pas sa communauté d'origine. À vouloir enfermer les gens dans ce qu'ils sont, dans leur communauté d'origine ou leur communauté de foi. Ceci, c'est des pratiques qui existent. Ou alors, quand tu as des gens courageux, vous avez un cas, mais alors excellent dans le Pas-de-Calais, c'est Étaples. C'est le pompon sur la Garonne, quand même. Bagdad. C'est difficile de s'appeler Bagdad. D'accord ? Bon, ok. C'est difficile aussi de s'appeler Islam. Je sais pas si vous avez vu sur la chaîne Gulli, un petit garçon. Vous connaissez la chaîne Gulli ? C'est une chaîne... Ouais, bah, mes enfants ne regarderont plus Gulli. Gulli. La chaîne Gulli, je fais une parenthèse et après on reviendra à ce que je disais à Bagdad en particulier. La chaîne Gulli fait un appel à participation à une fameuse émission qui s'appelle In the Boîte. Il y a un petit garçon de 9 ans qui est un fan de cette émission. Son rêve, c'est de participer à In The Boîte. Il envoie sa candidature. Il se rend à In The Boîte avec sa maman et son copain Jules. Et puis il arrive, il passe l'entretien. Hein. Et puis la nana, elle lui dit, ah non, ça ne va pas aller. Tu t'appelles Islam. Et Islam, c'est comme si tu portais un voile. Donc tu ne peux pas être sélectionné. Le petit Islam effondré, la mère révoltée qui agite la terre et qui appelle SOS Racisme. SOS Racisme qui dit, non, on ne peut rien faire. Donc finalement... médiatise le truc, rue 89, ça te dit quelque chose, Bakchich Info et tous ces sites alter informatifs, entre guillemets, balance l'info, et là Gulli revient sur sa décision en disant oh, on s'excuse platement, on n'a pas voulu, un gamin de 9 ans qui s'appelle Islam, vous imaginez le choc psychologique, il ne veut plus regarder Gulli, il ne veut pas aller à In The Boîte, ils l'ont invité pour qu'il vienne dans le public, la mère elle dira pas dans le public, s'il vient, il vient dans... le gamin, il ne faut plus lui parler de Gulli, il ne faut plus lui parler d'In The Boîte. D'accord ? Ben, c'est comme Bagdad. C'est difficile de s'appeler Bagdad. Quand vous êtes secrétaire de section pendant 10 ans, que vous êtes élu à 75% des voix des militants socialistes de votre section. Mais c'est du top. Bagdad, militant France Plus, militant socialiste. Le mec, il a 50 balais. Il va être grand-père bientôt. Et on lui dit, j'ai un issue de l'immigration. La fédération du Parti Socialiste présidée par le maire de Lens, c'est ça ? Qui dit non, c'est pas possible, Bagdad, ça le fait pas, on va vous envoyer un notable de la SNCF, là. Et au final, on monte au national, et puis François Hollande, avec l'appui de ses quelques camarades, et là aussi, on a agité le réseau au niveau national. Bah, finalement, il y a deux candidatures. Il y a la candidature Bagdad Ghezal soutenue par le Bureau national, et la candidature du jeune inconnu je sais plus, d'Eurocogny ou je sais pas quoi, quel nom là, soutenu par la fédération. Au final, la ville est à l'UMP. Bravo les mecs, bravo, excellent, continuez comme ça, bande d'abrutis. Non mais, et en plus, Bagdad, avant le premier tour, était prêt à négocier éventuellement, je me retire, vous me donnez peut-être une place. Et tellement ils lui ont mis la grenache, je ne trouve pas mon mot en français, tellement ils lui ont mis la haine, entre guillemets. Ben voilà, il dit, mais attends, on marche sur la tête. On marche sur la tête dans ce pays, c'est pas possible. Ben non, ben Bagdad, à 50 ans, ne peut pas être maire. Alors que c'est une ville de gauche étape, c'est pas le Touquet, quoi.
Racisme ordinaire, islamophobie banalisée. Aujourd'hui, en Nord-Pas-de-Calais, que se passe-t-il ? On en discute avec Ali Rani, représentant du collectif des musulmans de France.
Pour en revenir au problème de la représentation, des a priori, du regard que porte le non-musulman sur la communauté musulmane, est-ce que le fait également d'afficher sa religion, de revendiquer son appartenance, c'est pas quelque chose également qui attise non seulement la curiosité, mais également parfois les haines, parce que incompréhension ou ignorance.
Ouais, ça doit déranger des gens, qu'il y ait des gens qui affichent leur religiosité. Comme ça doit déranger les gens qui affichent leur appartenance à un club de foot, ou à une tendance, ou à une autre. Ouais, ça peut, mais bon, tant que c'est pas fait dans la provocation et dans l'envie de nuire, bon, les gens, je veux dire, entre guillemets, sont libres d'afficher ce qu'ils veulent dans la rue, sans empêtrer sur la liberté des uns ou des autres, quoi. Je veux dire, tant qu'il n'y a pas de pression par rapport à son voisin ou à autrui, je vois pas en quoi, si demain j'ai envie de me promener avec des cheveux orange et un blouson jaune, et d'afficher mon appartenance au mouvement de la Terre et de la Lune jaune, ça dérangera personne. Alors ça crispe quand il s'agit des musulmans, très certainement, parce que tous les stéréotypes et tout ce qu'on nous balance à la télé, c'est vrai, il y a de quoi avoir peur quand on regarde un peu la télé et qu'on voit ce qui se passe en Irak ou ce qui se passe en Afghanistan ou ce qui se passe en Palestine et qu'on ne sait pas très bien comment ils mélangent tout ça. On dit, mais là, ils sont chez nous, là. Ils sont en bas de chez nous, c'est nos voisins, c'est des gens qui vivent avec nous. Puis bon, quand on mélange tout et qu'on n'a pas tous les éléments et l'ignorance, une partie de la population, bah fait que, ouais, très certainement, ça peut crisper. Mais il faut aller de l'avant. Et c'est pas simple hein, que d'aller se découvrir ou d'aller se confronter aux autres. Hein. Les gens en parlent, oui, il faut aller confronter ses idées. D'abord, un, il faut être entre guillemets un peu solide dans ce qu'on pense, dans ce qu'on est, pour pouvoir aller se confronter aux autres. Et ça, c'est bon pour tout le monde. Parce que l'entre-soi, on aime bien. On est bien entre nous. On est entre potes, comme on dit. On se détend, tout va bien. Puis quand on est confronté à un autre milieu culturel ou à un autre milieu social ou à un autre milieu professionnel, alors fais attention à ce qu'on dit, quand même. On ne va pas passer pour un con. Puis il y a des gens qui ont envie de se confronter à rien. Ils vivent dans leur bulle, et de plus en plus. Faut peut-être sortir de sa bulle.
Aujourd'hui, j'évoquais également tout à l'heure la montée des extrêmes. Moi, je regarde quand même ce qui se passe ici dans le Nord-Pas-de-Calais, à Hénin-Beaumont. Bon, on a focalisé dessus parce qu'il y avait Marine Le Pen qui était là, présente sur la liste, à côté de Steve Bribois. Mais le Front National, dans le bassin minier, il est quand même en train de s'installer, et ce, durablement, en profondeur. C'est quelque chose également que vous analysez, que vous regardez, vous. Est-ce que vous êtes véritablement les premières victimes du Front National ?
Non, le Front National a fait un vrai travail de sape dans les mentalités. Je veux dire, il y a eu un vrai travail de lepénisation des esprits. Pierre Thévenon l'a très bien écrit, il vient d'en faire un deuxième bouquin, La République... La République des idées, le seuil, et c'est le titre, c'est La République. Et les idées du Front National sont transversales à tous les partis. C'est ce que je viens de vous expliquer avec le Bazar. Pour moi, c'est une forme de lepénisation. Un arabe maire, c'est pas possible. Donc, c'est intégré politiquement, ce qui est grave, ce qui est très grave. Puis quand on voit la campagne des municipales, mais non, la campagne des présidentielles, on dit le coup du mouton dans la baignoire dans un discours à Toulon. Il l'a pas fait à Lille. Il aurait pas pu le faire à Lille. La lepénisation des esprits et de l'esprit et de la lepénisation des idées aussi politiques. Transversale à la droite, à la gauche. C'est Non, le Front National, ben, nous, quand on voit aux élections municipales à Roubaix, ils ont disparu du conseil municipal. C'est une très très bonne nouvelle. Il n'y a que le maire de Roubaix qui pouvait être désolé de ne pas avoir le Front National au deuxième tour pour avoir une triangulaire ou une quadrangulaire avec le Front National. Nous, on s'est félicité dès le premier tour de l'absence du Front National. Donc, c'est une bonne chose. En tant qu'élu, mais leurs idées, elles sont là. Elles sont bien ancrées. Et puis, elles se sont bien diffusées dans une partie de la classe politique et même de la société. Donc, Jean-Marie... pas merci, j'allais dire. J'allais dire merci, non, pas merci à Jean-Marie.
Je me demande une question, parce que moi, je ne comprends pas l'arabe. Je n'ai jamais assisté à un prêche dans une mosquée. Un prêche, c'est quoi? C'est une lecture, une explication des écritures du livre, ou c'est un discours et un programme politique? Dès qu'on nous parle d'un prêche, on nous parle d'un imam qui va porter un discours d'ordre politique. C'est véritablement ça, le rôle du prêche?
Non, mais ça dépend du prêche, ça dépend de la période et ça dépend du sujet. On peut avoir un prêche et le prêche peut porter sur une exégèse coranique et j'allais dire l'explication d'un verset du Coran, tout simplement. On peut avoir un prêche sur l'actualité sociale, locale ou internationale de la planète. On peut avoir un prêche sur une catastrophe, on peut avoir un prêche sur le rappel des fondamentaux de la religion. Un prêche n'est pas politique en soi. Un prêche, la khutba du Jumu'ah, le prêche du vendredi, c'est celui-là dont vous parlez certainement, c'est une forme de rappel hebdomadaire. Mais les sujets peuvent varier d'une semaine à l'autre. J'imagine que vendredi, dans les mosquées, on va très certainement parler de ce qui s'est passé à Notre-Dame de Lorette. J'imagine qu'en période de pèlerinage, une série de prêches reviennent sur l'importance du pèlerinage et comment effectuer le pèlerinage. En période à la veille du mois du Ramadan, si on est vendredi, on aura très certainement un prêche. Et après, c'est en fonction de l'imam, en fonction du choix qui est fait par l'imam d'aborder tel ou tel sujet. Alors si l'imam parle de la situation humanitaire inhumaine à Gaza, est-ce que c'est un prêche politique? Si l'imam fait un appel aux dons en direction des populations les plus déshéritées en France, est-ce que c'est un prêche politique? Je ne sais pas. C'est pas dans le sens où c'est un discours politique. Mais s'il fait appel à la générosité des uns ou s'il fait appel à la conscience, tout simplement, des uns et des autres, est-ce que c'est une forme de politique, d'autres vous diront oui ou non? Et si on peut rester dans un prêche islamo-islamique avec tel verset du Coran qui rappelle ci ou ça, et point à la ligne. Mais ça dépend de l'imam, ça dépend de l'actualité, ça dépend de ce qu'il a envie de dire. L'idéal, c'est qu'on ait des prêches en français et en arabe traduits, comme ça les gens comprennent.
C'est quoi la différence entre la religion musulmane et l'islamisme?
Moi, je ne sais pas c'est quoi l'islamisme. C'est un mot inventé par les politologues et Gilles Kepel en est pour beaucoup. Mais bon, l'islamisme, chez les orientalistes français, l'islamisme était l'application de l'islam. Donc voilà, l'islamisme, on rajoute des ismes à tout ce qu'on veut, au fondamentalisme, au terrorisme. L'islamisme, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas de définition directe des politologues, mais le mot en arabe vient sort des prisons, en fait, sort des prisons d'Égypte à l'époque où Nasser a fait emprisonner tous les opposants à son coup d'État et à sa prise de pouvoir, en disant que nous sommes islamiyoun, et que les muslimouns, les musulmans, et islamiyoun, les musulmans engagés, j'allais dire, dans la lutte contre la corruption, dans la lutte contre la dictature. Et les prisons du monde musulman sont remplies de soi-disant islamistes. C'est comme ça qu'on le traduit d'islam. Et où la différence entre un musulman et un islamiste, c'est quoi? Tu fais insulter d'islamiste, c'est pas une insulte. Enfin, c'est pas une insulte. C'est quoi un islamiste? Après, on peut remonter dans l'histoire et faire l'exégèse de l'histoire ou des mots, mais on peut faire aussi de la sémantique. Hein. Dans l'islamisme, il y a islam. Donc, on parle des musulmans et d'islam. Donc, moi, l'islamisme, je ne prête pas beaucoup d'attention. Après, il y a des formes de radicalisme, ouais, des formes de lectures fermées ou des lectures très... avec des drôles de lunettes, avec des lunettes grossissantes. Là, on peut parler de, entre guillemets, de formes d'extrémisme ou de lecture qui n'est pas... Mais ça, j'allais dire, c'est pas propre à l'islam. Les pentecôtistes ou les méthodistes américains qui sont, que sont les mormons, c'est aussi une forme de christianisme, non ?
Mais là, on nous dit généralement, oui, mais attends, ces gens vivent entre eux et tout, il n'y a pas la volonté de s'imposer au monde. On a l'impression aujourd'hui que, attention, le premier danger sur la Terre, c'est l'islam et le fait qu'une poignée d'individus veulent imposer leur vision des choses, leur choix de société à l'ensemble de la planète.
Ça, c'est la théorie des chocs des civilisations de Clinton, ou de Fukuyama, qui n'a pas prise, je pense, en France, mais qui est très relayée par une certaine, certaine intelligentsia politique de droite et de gauche à travers l'Europe. Mais choc des civilisations... Il y a une partie des gens qui pensent que Ben Laden et co. va prendre le pouvoir et qu'on va installer une nouvelle forme de radicalisme à travers le monde musulman. Et que... Puis une autre forme d'abruti énervé de Bush et compagnie qui pense que le monde tourne autour des États-Unis et que les États-Unis vont s'imposer à travers la planète. Mais ils se rejoignent tous les deux, ils ont à peu près la même... C'est la même école de pensée, on dirait, que ce soit les illuminés qu'on a aux États-Unis ou les illuminés qui soi-disant, qui ont, à mon avis, une fabrication ou qui est une émanation des services secrets américains. Faut juste rappeler qu'Oussama Ben Laden a été aidé, formé, financé par la CIA. Mais bon, les gens oublient, mais bon, je ne sais même pas où il est, Ben Laden. Il est peut-être dans les studios de la CIA ou d'Al Jazeera, je ne sais pas. Mais après, les trois quarts des gens aspirent à quoi ? À vivre, entre guillemets... le plus dignement. Quand on voit l'état de la planète et l'état des pays émergents ou des pays en voie de développement ou les pays pauvres, les gens aspirent à quoi ? À vivre simplement, à manger, à vivre, à éduquer leur famille, à vivre librement. Et 80% des pays musulmans sont des dictatures sanguinaires. Donc, comment on pourrait avoir une imposition du monde musulman quand on voit l'état de déliquescence dans lequel on va aller du Maroc à principalement les pays arabes. Bon, le sud-est asiatique, c'est encore autre chose. Mais quand en termes de production intellectuelle, c'est quasiment nul. En termes d'innovation, il n'y a rien. Cacahuète. Ils n'ont rien produit depuis un siècle. On a affaire à des dictatures de malades mentaux. Et quand il y a des élections démocratiques, ça ne va pas. Il y a eu des élections démocratiques au Liban, ça ne va pas. Et les élections démocratiques en Palestine sous l'œil de la communauté internationale. Ouais, mais les Palestiniens, ils ont mal voté, ils ont voté pour Hamas. Non, mais ça va, quoi. En Égypte, on a Hosni Moubarak qui est élu à 99,9%. C'est pas... Ben Ali, c'est une grande démocratie, la Tunisie, tout le monde le sait. Hein. C'est un pays laïque, en plus. C'est un pays laïque où il y a des gens qui croupissent en prison depuis 30 ans, mais c'est une grande démocratie, la Tunisie. L'Algérie aussi, c'est une grande démocratie, entre les mains des généraux en particulier. Et le Maroc, c'est un royaume sympathique où tout le monde peut aller à Marrakech fumer un pétard. Non, mais ça va, quoi. Faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Et ça, entretenu avec les grands pays du monde, des États-Unis en passant par l'Europe, y compris, je ne vous parle pas de la France-Afrique. Je ne vous parle pas des pays africains.
Aujourd'hui, on nous parle surtout de l'Euromède.
Oui, c'est ça, l'Euromède, oui. Faut-il y croire ? Non. Non, après, c'est pour ça, après, les gens, ouais, ils mélangent la politique, la religion. Mais oui, mais tout est lié. Mais oui, tout est lié. S'il n'y a pas de lien entre la gestion du politique et le fait religieux, mais oui, qu'il y a des choses qui s'entrecroisent.
Le racisme ordinaire, l'islamophobie, particulièrement en Nord-Pas-de-Calais, on en discute aujourd'hui avec Ali Rani, membre représentant du collectif des musulmans de France.
Alors le discours qui est véhiculé également, parfois, c'est attention. Regardez, si ces gens arrivent justement au pouvoir, et c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas représentés, ne serait-ce que aux échelons de maire, regardez un petit peu ce qui se passe dans leur pays, parce que même s'ils sont là depuis 4-5 générations, ça reste tout de même... leur pays pour ces jeunes. Voilà, donc ça reste leur pays. Regardez, ce qu'ils ont fait chez eux, ils vont venir faire la même chose chez nous. Il y a également ce discours qui existe. Et est-ce que vous, là, je regarde le quotidien. Quand on est citoyen, électeur, français, musulman, est-ce que vous souffrez de ces a priori, de ces idées, de ce sens qui est là et du regard de l'autre? Est-ce que vous le percevez, vous, dans votre quotidien?
Non, pas du tout.
Et l'ensemble de la communauté le vit bien?
Moi, je pense, mais... Le lien avec le pays d'origine, moi, il est très distant. Je veux dire, je retourne en Algérie après 20 ans d'absence pour des raisons personnelles. Mais je mange français, je rêve français, je suis français, je m'habille français. Mon disque dur est français. Je suis un Européen convaincu. Je ne pourrais pas vivre en Algérie. Impossible. Je suis ch'ti, je suis chémi. Donc le truc autour du pays d'origine, non, je pense pas. Et alors que je vous dis qu'on est à la quatrième, voire bientôt à la cinquième génération. Donc ça aussi, c'est encore un truc. Ouais, ils vont nous ramener ce qu'ils vont, ils vont reproduire ce qu'ils ont chez eux. Non, c'est peut-être la vision qu'on a de nous, entre guillemets, du corps étranger qui est insoluble dans la masse républicaine, qui fait de nous des éternels suspects ou des éternels étrangers. En fait, non, on est des enfants de la République, peut-être pas reconnus, ou mal reconnus, ou pas désirés, mais on est là. Et il y a toute l'histoire, et de ce point de vue-là, je pense que là aussi, il y a encore une question du continuum colonial, de cette gestion coloniale des quartiers et des populations issues d'eux. Et là aussi, oh non, vous n'allez pas nous faire le couplet des indigènes de la République. Si, 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 moi, quand j'ai vu cet appel là, des indigènes de la République, j'ai dit, mais putain, ça me parle, ça. Quand on parle de gestion coloniale, on n'a pas vécu ce que nos parents ont vécu, Dieu merci. Moi, mon père, quand il me racontait, paix à son âme, la colonisation en Algérie, c'est ignoble, inhumain, il n'y a pas de mot. C'est l'apartheid. Ce n'est pas le cas en France, Dieu merci. D'accord ? Mais il y a un continuum dans la gestion. Prendre un exemple, l'école. Trouver au collège, à l'école primaire, des classes où il n'y avait que des Mohamed, des Fatima et des Mamadou. Je me suis retrouvé au lycée, j'étais tout seul. Et choc psychologique, entre guillemets. Bon, j'ai fait ma scolarité à peu près normalement, mais en troisième, avant d'arriver au lycée, on m'a dit, comme à tous mes copains, les Noirs et les Arabes, mais tu veux pas faire un BEP en mécanique? J'aime pas, monsieur, la mécanique, moi, j'ai pas envie de foutre mes mains dans la graisse, je veux passer à mon bac. Ouais, mais bon, je pense pas que tu vas y réussir. Mais monsieur, j'ai 14 de moyenne. Oui, mais faudrait quand même que tu fasses un BEP. Mais ça, tout le monde l'a eu, tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a vécu, ce que je vous raconte. Et dans leur tête, c'était pas possible. Alors, c'est pas forcément raciste, c'est pas forcément... Mais c'est quand même grave. Concentrer une population issue d'eux éternellement de quelque chose, dans un quartier, ou dans une ville, ou dans une partie de la ville. C'est-à-dire les gens qui ont travaillé à l'époque de l'Algérie française, je sais pas, moi, au service logement d'Alger, ont été rapatriés en France en 62. Ils ont peut-être continué leur pratique de vouloir avoir un quartier blanc, un quartier maghrébin, un quartier espagnol, un quartier portugais. Il y a dans les politiques de peuplement en France une véritable concentration des populations. Après concentration des populations, il y a une concentration des difficultés sociales. On cumule les handicaps, entre guillemets, sociaux. Alors, issus d'une famille pauvre, ouvrière, issus de l'immigration, famille monoparentale, et on cumule. Et puis, on a des belles banlieues, comme ça, Roubaix, Bondu, BMW, je l'appelle Bondu, Mouveau, Ouascal. C'est inaccessible pour le français... issu de l'immigration ou pas, pour le fils de prolo que j'ai été, qui était un fils de paysan avant d'être un fils de prolo. Tout ça géré. Puis après, je vous dis, la gestion coloniale. Regardez, ce qui s'est passé à Roissy, avec les bagagistes de Roissy. J'ai passé une lettre à la poste comme si c'était un passé. 70 mecs se sont retrouvés au chômage. 70 pères de famille. Parce que les mecs, ils étaient barbus et il semblerait qu'ils auraient pu éventuellement appartenir à un réseau. Non, non, non. On a foutu en l'air 70 vies de famille. Parce qu'ils étaient suspectés. Il n'y avait rien. Il y a eu des enquêtes. Il n'y a rien du tout. Ni El-Qaïda, ni quoi que ce soit. C'est normal en France en 2003, en 2004? Non, c'est pas normal. Puis après, il y a eu tout le délire après le 11 septembre. Dire, pour moi, les médias en général, que ce soit la télé et puis une partie de lobby très puissant dans ce pays, ont fait de l'islam, je vais dire, l'ennemi intérieur. Il faut toujours un ennemi intérieur dans une société. Et c'est le nouvel ennemi intérieur. On a eu le maccartisme aux États-Unis, là, on a l'islamophobie ou l'islamisme, soi-disant, en France. Et il faut un ennemi à l'intérieur pour pouvoir continuer à fantasmer tous les livres qu'on a eus sur la menace intérieure, les islamistes menacent la République. La République, elle est menacée par trois barbus et deux voiles. Non, mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quand même.
Est-ce que pour en revenir à ces problèmes donc liés à l'habitat et puis à la concentration donc des problèmes, ce que vous expliquiez tout à l'heure, et puis ces quartiers que l'on connaît aujourd'hui, la solution c'est quoi? C'est la dissolution forcée maintenant, c'est l'éparpillement, c'est quoi? C'est des quotas, le besoin de redistribuer, de penser autrement? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La solution, est-ce que le collectif des musulmans de France est également force de proposition? Et si oui, quelles propositions propose-t-il?
Moi, c'est des propositions, là. C'est des propositions et des questions très politiques, j'allais dire. La redistribution ou la redistribution de logements dignes dans ce pays. Il y a un grave problème de logement dans ce pays, mais bon, c'est pas le collectif des musulmans de France qui va trouver là ou les réponses adéquates. C'est-à-dire, c'est des questions très politiques, ça. Il faut abattre, entre guillemets, le délire de la question religieuse pour penser la question sociale, je veux dire, pour penser la question de la dignité des hommes, de pouvoir se loger dignement, de pouvoir nourrir et travailler, et nourrir sa famille dignement. Mais oui, qu'il y a des choses à penser. Il y a des villes où on n'a pas 1% de logement social, et il y en a d'autres villes où on a 98% de logement social. Est-ce que c'est normal? Non, il y a une loi dans ce pays qui n'est pas respectée. Il y a des maires qui sont des délinquants qui ne respectent pas la loi. Voilà, il n'y a pas 20% de logement social dans telle ville. Et qu'est-ce qu'on attend pour appliquer la loi? Rien. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique de vouloir répartir ces populations. Et quand vous avez envie de déménager, moi quand je me suis marié, que j'avais envie de m'installer et que j'ai demandé mon appartement, vous verrez comment on me propose un appartement à Barbieville ou quoi? On m'a donné le choix entre l'Allemagne et le Trois-Ponts. Voilà. Mais si je n'étais pas un petit peu, entre guillemets, un militant un peu averti, mais oui, j'aurais accepté, j'aurais baissé la tête, j'aurais dit oui, merci monsieur, c'est gentil, il me donne un logement. Et non, je veux ni aller là, ni aller là, je veux aller là. Oui, mais il n'y a pas de place, eh bien j'attendrai. Et il y a de la place, arrêtez de me... J'ai fait mon petit bonhomme de chemin et j'ai trouvé un appartement là. Mais bon, c'est une bataille, et même pour des choses, j'allais dire, simples. Voilà, je me marie, j'ai fini mes études, je vais m'installer avec ma copine, comme tout le monde. Un logement, c'est difficile. Un boulot, alors, quand vous êtes diplômé, à peu près, ça peut encore aller, mais ça dépend le boulot. Ça dépend le boulot. L'éducateur spécialisé, moi, j'ai volontairement choisi, volontairement, c'est aussi ma formation, et puis mon souhait, mon projet professionnel. Mais il y a des boulots, on était en une concentration de travailleurs sociaux issus de l'immigration, là aussi, éternelle maghrébine. Et le mec, ah, c'est bien, hein. J'ai dit, être arabe, c'est pas un diplôme. Hein. C'est pas parce que 98% des toxicomanes que je recevais pendant 10 ans sont issus de ma communauté d'origine que je suis là. Être arabe, c'est pas un diplôme. Et être toxicomane issu de l'immigration aussi éternelle, c'est pas génétique. C'est une question sociale, c'est pas une question tous les arabes sont toxicomanes. Ah oui, mais bon, il y a des concentrations de problèmes et de misère. Ouais. Nous, on a les solutions, c'est que il faut s'engager politiquement et pouvoir éventuellement transformer le monde, parce qu'un autre monde est possible.
On y croit encore à ce message quand on voit ce qui se passe à Lorette, où l'appel au calme, il faut relativiser, il faut dire, allez, on essaye de comprendre et on continue à travailler.
Oui, bien sûr, mais ouais, qu'il faut continuer à travailler et à militer et à s'engager pour que ça change, même si pour certains ça peut paraître utopique. Puis appeler au calme, les gens sont très calmes, hein. ils sont déçus, dégoûtés, abasourdis, c'est ignoble tout ce que vous voulez. Mais ouais, bien sûr qu'il faut continuer, on n'a pas le choix. Il faut continuer à lutter, il faut continuer à résister. Sinon, on est amené à disparaître comme des cons.
Ali Rani, membre représentant du collectif des musulmans de France, aujourd'hui à propos de l'islamophobie. Une interview proposée par Hervé Dujardin.